Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Binge. Previously on AMC's
Breaking Bad. Mais j'ai pas le souvenir en fait qu'il parle Wookiee dans la trilogie originale. Peut-être.
C'est possible parce que quand j'étais jeune, je parlais mieux espagnol que maintenant.
Non mais
il a perdu son Wookiee.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'en a pas tout à fait fini avec le Festival de Cannes édition 2018. Vous avez aimé nos émissions depuis La Croisette, vous allez adorer notre épisode du jour puisque nous allons revenir en longueur sur l'un des films qui a fait l'événement là-bas puisqu'il était attendu depuis rien de moins que 20 ans et que jusqu'à la dernière minute, il n'était pas certain qu'on puisse le voir. Vous l'avez compris, on va causer de L'Homme qui tue à Don Quichotte de Terry Gilliam. On va le faire avec un trio de pourfendeurs de moulins cinéphiliques réunis ici à l'antenne Paris. Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
David Honora, salut David.
Hola.
Merde, je m'y attendais pas. Il va falloir réécouter l'épisode précédent si vous n'avez pas compris cette blague. Et Stéphane Moïsakis. Hola Stéphane.
Salut.
C'est Nos Ciné, épisode 141. En épisode 141, tais-toi. Et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
L'Homme qui tue à Don Quichotte, donc l'histoire a pas mal bougé au cours de son improbable et interminable production, mais celle sur laquelle Gilliam s'est fixé avec son co-scénariste Tony Grisoni, c'est la suivante. Toby, alias Adam Driver, réalisateur de pub un poil désabusé, se retrouve en Espagne pour un tournage dans une région où, plus jeune, il traîna ses guêtres et sa caméra pour y filmer une œuvre de jeunesse qu'il retrouve et dont il décide soudain de remonter le film. Et comme vous vous en doutez, ce film du passé avait pour thème Don Quichotte.
You are fucking gone! Try to keep up with the plot.
There's a plot?
He needs constant entertainment.
I command you to release my squirrel.
This has nothing to do with me.
Why does everything always have to be about you, Sancho?
Me, 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 me.
Et devant la caméra de Gilliam, outre Adam Driver, donc on trouve Olga Kurylenko, Sergi Lopez ou encore le vétéran Jonathan Pryce qui a l'auguste honneur d'incarner ici ce Don Quichotte fantasmé. Votre avis sur tout ça, chers amis? Perrine, rapproche-toi du micro et dis-nous ce que tu en as pensé.
Ce que j'en ai pensé, c'est qu'il était temps, en fait, il était temps de le voir. 20 ans, pauvre Terry, c'était quand même très très long. Il en a eu des galères et puis encore la dernière avec Paolo Branco et les innombrables procès, cassations, référendums et compagnie jusqu'à la veille de la sortie. On ne savait pas encore si le tribunal l'autoriserait.
Allait
pouvoir sortir en salle. Donc ça a été vraiment jusqu'au bout. Moi, je me souviens à Cannes, je me suis posé la question s'il n'y avait pas une météore qui allait tomber sur le palais et empêcher la projection.
Enfin, Gilliam a fait un AVC 10 jours avant.
Il a fait un AVC 10 jours avant.
Donc
vraiment, c'est
jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'était même touchant de le voir monter les marches, danser dans la salle, faire encore une fois des pas dedans. Ce qui était clairement, ça veut dire va te faire voir Paolo Branco, pour être poli, mais voilà, clairement c'était joyeux de le voir aussi enthousiaste et enfin d'avoir son film qui touche un projecteur de cinéma. C'était quand même émouvant. Alors, une fois la case émotion partagée avec Terry qui a enfin pu faire son film,
qui est d'ailleurs soldé par le carton inaugural du film qui dit 25 years in the making.
Oui.
Ce truc un peu émouvant au début, voilà, qui notifie l'épreuve que ça a été de
fabrication.
Ce film.
Et voilà, après on se retrouve face à l'œuvre, quoi, l'œuvre qu'on a tant attendue. Et c'est sûr qu'en 20 ans, 25 ans, les espoirs ont germé chez tout le monde. Tout le monde imaginait quelque chose de très grand. La déception, elle est évidente. On ne peut pas être complètement convaincu par le film. C'est pas possible, au bout de 25 ans d'attente, d'être totalement convaincu. Et c'est mon cas. Je ne suis pas du tout totalement convaincu. Je me suis retrouvée face à quelque chose de... Comment dire ? Très Terry Gilliam. C'est très Guillaume. En fait, c'est ce qui est assez touchant dans le film, c'est que c'est un film assez testamentaire, en fait. C'est même, moi, c'est ce qui m'a un peu fait de la peine en regardant le film, c'est que j'ai vu Terry Gilliam qui y a mis toutes ses obsessions. Il y a tout Terry Gilliam. Il s'autocite un milliard de fois dans le film, que ce soit dans la façon de filmer, que ce soit dans les personnages des grosses têtes. On retrouve du Monty Python, on retrouve du Brésil, on retrouve un
ne
peu tout.
Ne serait-ce que dans le cast de Jonathan Pryce.
Le cast de Jonathan Pryce.
C'est comme il y a un fétiche.
C'est très joli à la fin, le petit In Memoriam, comment dire, Jean Rochefort et John Hurt.
Qui étaient ses deux précédents.
Oui. Ses deux précédents Don Quichotte.
Dans les deux précédentes versions. Quand le film elle avait démarré une première fois et puis en fait a failli redémarrer avec John Hurt il y a quelques années. Ouais.
Et d'ailleurs, il s'autocite aussi en parlant de Lost in La Mancha à plusieurs moments. Enfin, il le dit pas, mais quand il dit oh là là, c'était censé être un mois où il n'est pas censé pleuvoir, ça promet pour le reste du tournage. C'est un peu. Voilà, il est tout le temps dans la citation. Et en même temps, on a ce personnage de Don Quichotte qui clairement est une représentation de Terry Gilliam lui-même, en fait. C'est cet homme qui se bat contre des moulins à vent en permanence, qui s'est battu toute sa vie pour faire quelque chose, un rêveur que personne ne croit, mais que tout le monde suit finalement, où à un moment donné, on se dit, bon, il est tellement dans son délire qu'il va falloir qu'on y aille, conscient un petit peu du côté un peu pathétique de la chose, c'est-à-dire que, voilà, c'est un peu... Il est assez touchant, mais on a envie de le protéger. Donc je trouve que cette idée, se ramasser, de se dire, voilà, je suis conscient de ce que je suis en train de faire, je suis conscient que je suis en train de parler de moi, et en même temps, c'est ce que vous attendiez, c'est ce que vous aviez envie de voir. C'est très joli, en même temps, moi, c'est ce qui me sort un peu du film, parce que voilà, au bout d'un moment, je suis pas sûre de regarder une œuvre ou si ce n'est un dialogue entre moi et Terry Gilliam, où il me dit voilà, ça c'est tout ce que je suis. Et à partir de là, je sais pas, je lui souhaite encore de faire d'autres films et de faire d'autres belles choses, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de sensation de point final en regardant ça, qui est un peu émouvante. Ça m'avait fait une sensation similaire, alors qu'il continue à faire des films, hein, avec Tim Burton et son Big Fish, clairement, où moi j'ai l'impression de voir dans Big Fish toutes les obsessions de Tim Burton, et à partir de là, j'ai vu un mec qui s'est muséifié et qui refait ad vitam aeternam exactement la même chose, au point de me désintéresser totalement. Et là, je me dis, bon bah, il a fait le tour, et c'est très touchant, c'est un peu hystéro, c'est un peu plan-plan par moment, et on a un Adam Driver qui mène le film de bout en bout, et je pense que c'est grâce à Adam Driver notamment que le film a une tenue total en fait dans ce film, parce que c'est lui qui vient nous ramener la réalité. C'est clairement la représentation du spectateur, où au début on est on est face à ce film complètement perplexe, comme lui est perplexe face à ce Don Quichotte, et au bout d'un moment on finit par se laisser aller et aller accompagner le délire, parce qu'on se dit que ça va faire du bien à la personne qui est en face de nous, et que c'est le seul moyen de l'aider. Donc c'est plutôt c'est une œuvre qui est belle parce qu'elle est personnelle, elle est belle parce qu'on a un attachement au combat de cet homme, parce qu'on a tous vu Lost in La Mancha, ça nous a tous brisé le cœur. Mais le film en lui-même est un peu trop foutraque et clairement sans dessus dessous pour être clairement un grand film, quoi.
David,
un peu foutraque et un peu trop long. Alors moi j'allais voir le film avec beaucoup moins d'attente, en particulier à cause notamment du précédent film de Terry Gilliam dont on avait un peu parlé dans les émissions précédentes dans nos ciné-clubs. Pour moi, Zéro Théorème,
le vieux monsieur.
Wow, le mec qui a fait ça, j'ai vraiment pas envie de voir son prochain. Alors évidemment, il y a toute l'histoire du film dont Perrine a déjà largement parlé, qui rend le truc un petit peu plus sacré et voilà, qui donne envie de le découvrir. Moi, j'avais des problèmes, donc notamment il y a des très grosses longueurs dans le film, et en fait le film s'éparpille. Je trouve que ce qui est le plus intéressant justement, c'est ce jeu un peu méta entre ce qui finalement fait le sujet de fond de Don Quichotte, entre le réel et le fantastique et l'imaginaire, qui est là doublé du côté le parallèle entre le film en costume, le film en train de se tourner, les choses contemporaines. Enfin, il y a plein de choses qui, je trouve, en fait, sont intéressantes, mais diluées dans un ensemble qui va trop dans tous les sens pour que ça soit bien foutu. Enfin, moi, c'est à tel point que je me dis que presque un montage resserré de ce que j'ai vu aurait pu faire peut-être un meilleur film. Après, moi, j'ai un problème avec le casting de manière générale. En fait, je trouve que effectivement, Adam Driver porte le film Et en fait, très au-dessus en niveau de jeu et en charisme par rapport à tout le reste des acteurs. Et en même temps, je pense que c'est presque un problème dans la dynamique du film parce que, en fait, il se retrouve. Donc, il joue un réalisateur, mais qui se retrouve. Embarqué dans... Enfin, en fait, il a eu une sorte de rôle de Sancho Panza de substitution. Et du coup, il est beaucoup trop charismatique, en fait, pour être Sancho Panza. Du coup, il amoindrit le charisme et le côté exubérant de Don Quichotte. C'est très cool pour Adam Driver parce que là on voit son talent, on voit son charisme, on voit notamment que bah, je trouve qu'il est très très sous-exploité dans Star Wars parce que c'est un mec qui peut vraiment faire des trucs.
Il n'y a que dans Star Wars qu'il est nul. Hein.
Ouais, voilà, mais c'est clair. Quand on l'a découvert dans Girls et chez Scorsese, où pareil, il ne faut pas me relancer ça en Garfield encore une fois, mais bon. Il bouffe tout le monde à chaque fois qu'il est à l'écran. Et du coup, il y a une petite inadéquation en fait entre ce qui est censé être son personnage. Et du coup, dans certaines scènes, on comprend pas très bien en fait pourquoi il se laisse balader alors qu'on sent qu'il a le dessus sur le truc. Et du coup, enfin les deux personnages, moi, que je trouve les plus gênants, c'est les deux personnages féminins. Olga Kurylenko, je la trouve catastrophique, et celle qui joue Angelica. C'est encore pire. J'ai vraiment l'impression.
Quel bel accent espagnol quand t'as dit ça.
Ah bah moi, la langue de Cervantes, c'est toute ma vie. Et du coup, voilà, j'ai été, plutôt agréablement surpris parce que j'en attendais vraiment très, très. En fait, je m'attendais vraiment à une catastrophe, quoi. Aller assister à un accident de voiture de 2 heures, quoi.
Super long.
Et en fait, du coup, il y a ce côté, c'est pas si catastrophique que ça, mais clairement, on passe à côté de quelque chose. Et je pense en grande partie sur des raisons de casting, et on l'a évoqué. Enfin voilà, clairement, le film avec Jean Rochefort, c'est complètement autre chose, quoi. On aurait pu être dans un truc.
Et Johnny Depp.
Ouais. Oui. Et donc c'est un film qui est assez triste sur tout ce qui l'entoure et qu'on regarde avec des regrets, avec un peu le souvenir de ce qu'a pu être la filmo de Terry Gilliam. Voilà.
Stéphane.
Le truc, c'est que ce sujet-là, en fait, de la, comment dire, la réalité et l'imaginaire qui se fracasse, en fait, c'est toute sa thématique de tous ces films. En fait.
Oui,
c'est-à-dire que c'est dans L'Armée des Douze Singes, c'est dans Brazil, c'est dans Munchausen, c'est dans Fincher King. Mm. Pour moi, c'est le mec qui filme le mieux les bipolaires, en fait, Gilliam, vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas s'il est bipolaire, c'est intéressant de savoir, tu vois, parce que c'est un type qui, comment dire, filme ce que les autres ne voient pas, en fait, chez eux, quoi. C'est-à-dire vraiment le moment où les mecs, ils ont vrillé, ils ont accepté, en fait, leurs conditions, ils ont accepté qu'il y a un autre monde, en fait, qui s'ouvre à eux, à un moment donné. Et le truc, c'est que ce fracassage, en fait, entre les deux, c'est tellement quelque chose qui est au sein de son cinéma que je pense que c'est quelque chose qu'il nourrit, vraiment. On parle du problème de Don Quichotte, mais en fait, il faut se rappeler qu'il y a eu quand même une bataille de dingue avec Universal sur Brazil, qu'il était en dépassement de budget sur Munchausen. Mais... Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui génère vraiment le chaos.
Qu'il a perdu son acteur principal en plein tournage de
sur Parnassus.
Voilà.
Et c'est pas la fatalité, ça. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui génère ce chaos-là et qu'il a besoin de ce chaos-là pour faire ces films-là. Vraiment, et la réussite de ces films, je pense qu'elle est, elle est liée à tout ça, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui fonctionne vraiment, voilà, qui a besoin de le nourrir, ce truc. Le problème, en fait, de ce film-là, le problème de Don Quichotte, c'est que finalement, t'as l'impression que c'est qu'une formalité, en fait, qui tourne le film maintenant. C'est-à-dire après 25 ans de galère, après tout ça. Et du coup, en fait, j'ai l'impression de voir un film où il se dit, bon, bah maintenant, faut le faire, ça y est, j'y suis. Et en fait, d'un seul coup, t'as comme si toute l'énergie était complètement retombée, en fait, et que finalement, la plus belle histoire pour moi, c'est toutes les galères qu'il a eues, en fait, avant de faire le film, quoi. Bon, je dis ça, le truc, c'est qu'il y a quand même une dernière demi-heure qui fonctionne vraiment bien, je trouve.
Il y a une très belle scène, où il envoie sur la lune, entre guillemets.
Et qui est déchirante, en fait, pour le personnage. Et c'est un des moments où tu commences à ressentir quelque chose, je trouve, dans le film, vraiment. Et l'autre souci, c'est que j'aime cette idée de transmission de la folie, en fait, quelque part, c'est-à-dire de la pirouette finale du film, c'est ça, en fait, c'est finalement, maintenant je te passe ma folie, vas-y, démerde-toi.
Oui, la folie comme un virus, quoi.
Voilà, c'est ça, démerde-toi avec.
Tu vois,
c'est fait, voilà, c'est fait, vis avec ça, et fais quelque chose, quoi. C'est pour ça que je suis pas tout, enfin, c'est-à-dire que pour acheter cette idée finale, ça me va, en fait, que Adam Driver, finalement, soit considéré comme Sancho Panza pendant tout le film, en fait. Ça me va. J'ai pas ce problème. Je pense qu'on aurait pu avoir ce même souci-là avec Johnny Depp, finalement, même si Rochefort peut-être tient plus la dragée que... Ou John Hurt aurait plus tenu la dragée que Jonathan Pryce. Mais qui peut être un très grand acteur aussi, hein, G.I. Joe, quoi.
Et tu me l'as ôté de la bouche. Voilà.
Le truc, c'est que...
Je pense que le souci,
c'est ça. C'est un film... C'est pas tant que c'est un film de j'ai envie de dire, de vieux monsieur, parce que moi, là où la comparaison avec Burton, c'est-à-dire que je suis d'accord sur le point de bascule de Burton, c'est-à-dire sur Big Fish, où d'un seul coup j'ai l'impression de voir un mec, en fait, qui a totalement normalisé son discours. Ce qui n'est pas le cas de Gilliam, en fait. C'est-à-dire que pour moi, Gilliam, il reste malgré tout à contre-courant quand il fait ce film-là et quand il évoque ce film-là, et jusqu'à la dernière minute, puisque jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si le film allait sortir, tu vois. Donc c'est donc quelque part, en fait, si tu veux, c'est pas les dieux qui se sont penchés sur le truc, tu vois. Ou alors, Dieu n'était pas content de l'avoir vu se faire dessiner comme ça par Terry Gilliam, il a dit attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries, et il est descendu, tu vois. Mais le truc, c'est que non, tu vois, je pense que c'est un film qui va quand même à contre-courant de tout ça. Malheureusement, il a juste plus du tout l'énergie du désespoir que t'attends de ce film-là, en fait. C'est-à-dire, moi, quand je regarde, là, on a parlé de Lost in La Mancha, qui est pour moi un film infiniment meilleur que celui-là, au final, un plus intéressant à regarder en soi, mais même jusque dans les plans qu'il y a, c'est-à-dire que la scène des géants à la fin, les plans que t'as dans Lost in La Mancha, je les trouve bien meilleurs, en fait, même s'ils sont pas retouchés, s'ils sont pas machin, juste l'utilisation de la courte focale et tout ça, c'était tellement plus excitant, je trouve, quand je voyais ces plans-là que quand je les vois là, en fait, au final, quoi. Et c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a plus... C'est-à-dire, il y a peut-être ces gimmicks en soi sur lesquels il peut se reposer, mais t'as l'impression que c'est pas tout à fait les siens. Et l'autre truc sur lequel, par contre, et alors là, je te rejoins, Perrine, sur ce que tu disais, c'est que c'est vrai que les autocitations, alors, ça fait un moment qu'on a pris l'habitude, on va dire, depuis Brothers Grimm, tout ça, qui est pour moi son pire film, hein, c'est vraiment un truc horrible, quoi. C'est pas normal, en fait, parce que justement, quand il allait à contre-courant, c'est pas normal, en fait, qu'on se retrouve avec des trucs de comédie de l'arté, de trucs comme ça, etc., qu'il a emprunté à Munchausen, à d'autres films et tout. C'est pas normal qu'on se retrouve avec tous ces trucs-là dans ce film-là, alors que c'est spécifiquement quelque chose contre lequel il se battait vis-à-vis de ses équipes, en fait, quand il allait faire, par exemple, à l'Armée des Douze Singes. C'est-à-dire que l'Armée des Douze Singes, son équipe d'écho était tellement fan de Brasil qu'ils essayaient de remettre des trucs. Ils disaient, mais non, putain, vous faites chier, moi, je suis en train de faire un autre film, là, moi, je l'ai fait, Brasil, c'est bon, lâchez-moi. Et voilà. Et ça, mine de rien, ça demande de l'énergie de se battre, en fait, contre sa propre équipe pour leur dire, non, vous faites pas ce que moi, je ferais il y a 10 ans, vous faites ce que je vous demande de faire maintenant, et on essaye d'enlever, en fait, justement, les autocitations. Ça demande de l'énergie, et c'est un monsieur qui a 77 ans. Et en fait, à un moment donné, je dirais pas que le cinéma c'est automatiquement un art pour les jeunes hommes, parce que c'est pas vrai, mais par contre forcément, en fait, tu baisses ta garde sur quelque chose. Et clairement, en fait, arriver au moment du tournage, arriver au moment où ça a été fait, passer peut-être, j'imagine, la première semaine où il fallait se dire, putain, on va dépasser cette première semaine qu'on n'a pas réussi à dépasser en 2000, quand on a essayé de le tourner la première fois, en fait, en gros, t'as l'impression qu'il a lâché la garde. Il s'est dit, allez, tu vois, allons-y, c'est bon, on est en train de le faire, le film, quoi. Et c'est en ça que je dis, pour moi, c'est une formalité. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, à un moment donné, finalement, je me demande même si c'était pas le plus facile à faire, finalement, de finir par tourner le putain de film, si tu veux, plutôt que de vivre 25 ans avec quelque chose qui, je pense, est... aurait pu être effectivement sa grande œuvre, en fait. C'est-à-dire que vraiment, s'il l'avait fait, je pense, en 2000, ça aurait été, à mon avis, un grand film. Parce que tu suivais L'Armée des Douze Singes, tu suivais Las Vegas Parano, qui sont vraiment des films, pour moi, des films fous, que t'as pas, là. Tu vois, cette folie, elle est pas tout à fait dans le film. C'est-à-dire, on en parle, mais pour moi, je la ressens jamais vraiment, à part, encore une fois, dans quelques moments de la dernière demi-heure, et quand il accélère un peu le tempo, quoi.
Mais c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que le film est encore à contre-courant, parce que justement tout ça, toute cette folie de Gilliam dont, que tu cites en disant l'armée des douze singes, en disant Brésil ou en disant
je dirais dans la thématique, c'est ça que je voulais dire, plus que dans l'exécution.
Ouais, parce que là pour moi j'irais pas jusqu'à normaliser, mais c'est des choses qu'on a complètement intégrées, que maintenant il y a des gens qui font des films à la Gilliam, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement intégré. Et justement vous parliez David et toi de cette dernière demi-heure, enfin dernière demi-heure 45 minutes, que moi je trouve très très belle, dans le sens où justement pour moi tout le message du film, et comme il a réécrit et voilà, et que encore une fois c'est un monsieur d'un certain âge qui est conscient de son cinéma, qui est conscient de sa vie et des épreuves qu'il a traversées pour faire ce film, je trouve que c'est très beau à un moment donné le message de fin, et c'est pour ça qu'Adam Driver à mon avis est aussi prégnant dans le film, aussi visible dans le film, c'est de dire à un moment donné, vous, les désabusés, vous, à un moment donné, continuez à croire dans les rêveurs, continuez à suivre les rêveurs, même s'ils vous ennuient, même s'ils sont fous.
Il se contredit pas totalement, quoi.
Mais non, il se contredit pas du tout. Au contraire, c'est juste qu'il est en train de plaider encore une fois sa cause et de dire jusqu'au bout, croyez à des gens comme moi, à des gens que vous prenez pour des tarés, que les gens ne respectent pas, que l'industrie ne respecte pas, puisque c'est quand même toute la scène
c'est
de fin.
Oui, bien sûr, c'est ça.
On ne respecte pas les créateurs, on ne respecte pas les rêveurs. Et là, il a dit, mais allez-y, croyez-les, défendez-les jusqu'au bout, jusqu'à leur vie. Prenez leur virus, transmettez le virus et partagez-le. Et je trouve que toute cette fin est en train de raconter ça. Moi, elle m'a brisé le cœur comme Lost in La Mancha m'a brisé le cœur. C'est-à-dire que ce moment, tu parlais d'aller sur la Lune, ce moment de pure humiliation, eh ben, moi, j'avais le cœur en deux parce que je trouvais que c'était horrible de traiter les gens de cette façon-là. Et je pense que sincèrement, Gilliam est en train de dire, voilà comment moi, on m'a traité pendant très longtemps.
Ça, c'est une évidence.
Ouais, et je trouve que c'est très beau. Alors, il est peut-être un peu acteur à ce niveau-là parce que c'est quand même quelqu'un de très respecté dans la profession. Mais il a subi aussi ça, ce truc de tu n'y arriveras jamais et de toute façon.
Oui, mais encore une fois, je pense que comme c'est un mec qui génère le chaos, il est respecté, mais est-ce qu'il se respecte lui-même? C'est ça la question pour moi, en fait. Quand un type comme ça fonctionne et a besoin, en fait, littéralement, de se nourrir de ça. Encore une fois, c'est dans tous ces films, c'est même pas que c'est les sujets, c'est que tous les films, de la façon dont ils ont été faits, je veux dire, à la limite, à l'armée des douze singes, c'était le film qui était le plus parce que bon, il s'est pris la tête avec Bruce Willis, mais tout le monde se prend la tête avec Bruce Willis, tu vois, c'est juste...
C'est contractuel.
Il paraît que c'est un casse-couille de premier ordre, tu vois, et bon, après, donc si t'obtiens ce que t'obtiens avec de Bruce Willis dans l'armée des douze singes, bah très bien, pas de problème, parce qu'il est magnifique dedans, et c'est une de ses meilleures performances, mais le truc, c'est que quand tu regardes, il y a un très beau documentaire, justement, sur le DVD, peut-être ils l'ont rajouté sur le Blu-ray, je sais pas. Il était sur le DVD, sur le Laserdisc à l'époque, qui était The Hamster Factor, où tu vois le sens du détail de Gilliam qui se prend la tête avec l'équipe juste pour avoir un putain de plan d'un hamster qui tourne dans sa roue, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça en fait le truc, et que tu vois qu'il se prend le chou avec ça et qu'il fait attendre toute l'équipe malgré le fait qu'ils ont un budget limité, malgré tout ça, etc., etc. Tu te dis, voilà, ce mec il poussait le truc à fond, et il l'a dit, hein, c'était le film le plus facile qu'il ait eu à faire, c'est-à-dire parce que c'était un film qu'apparemment à ce budget-là, à ce truc-là, les gens voulaient.
Ouais.
Mais pour lui c'était juste, et puis en plus il avait cette trouille de retourner chez Universal, tu vois, après 10 ans après Brésil, quoi. Mais le truc c'est que moi je pense que voilà, comme le mec génère tout ça, effectivement aujourd'hui il a 77 ans, donc il a le respect de Cannes, il a le respect de tous les gens, etc., etc., qui, voilà. Mais le truc c'est que de la profession, mais je pense que lui-même en fait ne se respecte pas forcément par rapport à ça, en tout cas je pense que ça le fait chier. Je pense que ce respect absolu, ça le fait chier aussi. Il dit non, moi, il préfère être l'outcast, le mec mis de côté, plutôt que... C'est un rôle, en fait, qu'il a accepté à une époque, et je pense qu'il continue à essayer de maintenir. Et ça, ça me va. Ça me va parce qu'il y a une espèce de logique de ténacité derrière, en fait, si tu veux. Si, en fait, il était... Je pense que s'il acceptait d'être respecté, il aurait jamais fini ce film. Il aurait fait, c'est bon. De toute façon, ce film, je l'ai vécu, il existe, j'ai pas besoin de le finir. Tu vois. Là, il fallait, je pense que c'est une question de survie. Hein. Il fallait qu'il finisse ce film-là. Il fallait pas que ce film rentre dans ses regrets en fait, de pas avoir pu le faire. Quoi. Quitte à ce qu'il ressemble à ça, finalement, et à mon avis, pas à ce que ça aurait dû être il y a 20 ans. Quoi.
Avant de se quitter, chers amis, on va garder nos bonnes habitudes. On va passer aux traditionnelles recommandations liées ou pas à l'univers de Gilliam. Comme d'habitude, c'est vous qui décidez. David, tu vas commencer d'ailleurs.
Alors moi, c'est pas vraiment lié à l'univers de Gilliam.
Est-ce que c'est un film espagnol?
Non, c'est un film français. Ah. J'ai réfléchi à... Enfin, je trouvais pas trop quel reco sortir. Et puis, voilà, je vais pas recommander un film de Terry Gilliam. Enfin, vous connaissez les bons films de sa filmographie à aller redécouvrir.
Non.
En plus, on en a pas mal parlé pendant l'émission.
Tout à fait.
C'est un film un peu sur... Enfin, qui rebrasse ces thématiques à la fois sur les questions de tournage, la personnalité d'un réalisateur, et puis... Le, le parallèle entre les films en costume et la modernité. C'est une comédie de Léa Fazer qui s'appelle Maestro et qui avait été écrite par feu Jocelyn Quiverin, l'acteur qu'on voyait notamment dans 99 francs, qui raconte, en fait, qui est inspiré de son expérience à lui sur le tournage du dernier film d'Éric Rohmer, Les Amours d'Astrée et de Céladon, qui pour lui est... Pour lui, jeune acteur, ça a été une expérience. Il disait, mais qui c'est ce type? Qu'est-ce qu'il nous fait faire à nous mettre en toge et à dire des dialogues à la con et tout ça? Et du coup, le film raconte ce tournage, les rapports entre les acteurs, la vision du vieux cinéaste qui essaye de porter son truc. C'est Michael Lonsdale qui joue le rôle de l'alter ego d'Éric Rohmer. Enfin, il s'appelle pas Rohmer dans le film, mais voilà,
il
c'est
un
très
tout proche, hein, je sais plus, mais tout
oui,
proche.
Oui,
Rohmer.
C'est ça, Michel Rohmer.
Et en fait, déjà, c'est assez drôle, c'est assez bien vu, c'est plutôt touchant et c'est très bien foutu. Donc voilà, je vous invite à découvrir ce film.
Très bien. Perrine.
Moi, je restais plutôt parce qu'en fait, Don Quichotte, c'est quand même un personnage du XIVe siècle qui est fasciné par les récits de chevalerie du XIIe siècle. Donc, il est persuadé qu'il va faire revivre la chevalerie, etc. Donc, il est un petit peu.
C'est là qu'on a découvert que Perrine avait une thèse en histoire médiévale.
Et oui, et voilà, c'est ça.
Et elle va de nouveau nous.
Et je vais la faire en espagnol.
Non,
mais justement, je voulais rester un petit peu dans ce délire d'amoiseau et chevalier. C'est un film qui, pour moi, est un film aussi malade que le film de Guilliam en soi, c'est qui était passé à Cannes il y a 2 ans, 3 ans, de Matteo Garrone, Tale of Tales, le conte des contes, qui reprend un petit peu de manière très éloignée des contes du 15e siècle italien, et que je trouve être une merveille. Je fais partie des 1% de la population cannoise qui a vu ce film, qui a trouvé ça bien. Mais voilà, parce que le film est malade, il est foutraque, il a presque pas de tenue. Mais en fait, voilà, on mélange des contes comme ça du 15e siècle qui sont, pour moi, sublimes. Le film est un livre où on tourne les pages en permanence, on est surpris par les décors, par le jeu d'acteur, par le mélange d'une Salma Hayek qui va croquer dans un cœur plein de sang, de voir une magnifique comment elle s'appelle cette actrice, machin Martine là. Et bien sûr, j'ai plus son nom, qui jouait dans Nymphomaniac.
Stacy Martin,
merci. Donc Stacy Martin avec une longue chevelure rousse dans une espèce de peinture pré-raphaélite, comme ça, c'est sublime. Enfin, le film est magnifiquement beau. On reprend cette idée de conte, cette idée de chevalerie, cette idée de grosse créature en animatronique, une espèce de ver géant en animatronique. C'est sublime, c'est n'importe quoi. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce film-là en regardant le film de Guilliam, parce que voilà, ces séquences en costume, ces séquences de vanité et de décadence m'ont fait beaucoup penser à ce film-là, que je recommande et que j'encourage les gens à voir et à apprécier, enfin, pour sa juste valeur.
Mais c'est vrai, j'y ai pensé aussi, même des séquences qui se ressemblent visuellement.
Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Ouais, il faut aimer le Garonne, il faut.
C'est beau, Stéphane.
Alors, il paraît que j'ai déjà recommandé Impitoyable.
Ah, peut-être dans une émission passée, c'est David Honora qui
ah ouais, je sais pas,
il y a longtemps.
Remettons-le.
Alors bah, voilà, parce que bon, il faut toujours parler un peu d'Impitoyable quand même.
Surtout, tu es contractuellement obligé de parler de Clint Eastwood, voilà, rappelons-le.
Sinon, nos ciné ne me paye pas.
Voilà, depuis cette triste émission où tu as dit du mal de Clint.
Vous m'avez forcé. Et pourquoi Impitoyable alors, en connexion, on va dire, parce que c'est un film qui a aussi mis 15 ans à se faire, en fait, pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est un film qui a été écrit par David Wet Peoples, en fait, un des scénaristes de Blade Runner, dans les années 70. Ne baille pas, Thomas Rosenberg.
Non, mais je t'écoute. J'ai très chaud.
C'est vrai. Et en gros, c'est un film que Eastwood a récupéré dans les années 70-80 et qui a décidé d'attendre, en fait, d'avoir le bon âge pour jouer le rôle principal. C'est-à-dire le rôle d'un tueur qui, à la retraite, qui décide, en fait, qu'il a changé et qui, en fait, repart à l'aventure pour retrouver des gens qui ont taillé une pute et la venger. Et en fait, se rend compte que malgré tout ce qu'il dit, en fait, il n'a pas perdu du tout son âme de noir, de tueur. Quoi. Il n'est pas pardonné, comme le dit le titre original. Quoi. Parce qu'il y a un vrai contresens entre le titre original et le titre, les titres français. Unforgiven, c'est le nom pardonné et impitoyable. Et même si les deux fonctionnent dans l'absolu, quoi. Et sans aller jusque dans cette thématique, on va dire, proche de Gilliam, parce que c'est pas du tout le même ton et la même approche, il y a quand même une logique de démystifier le western et de vraiment de dire, il y a le western qu'on connaissait, c'est-à-dire même celui que Eastwood a pu faire à une époque, que ce soit, avec Léon, ou que ce soit qui est un pur western opératique, cinématographique, flamboyant, même s'il est cru. Et il y a la réalité de l'Ouest, en fait. La réalité de ce qui a fondé l'Amérique aujourd'hui, quoi. Et que c'est des tueurs de sang-froid, en fait. Voilà, c'est ça. Et toute l'idée, en fait, si tu veux, du film, de confronter ça, je pense qu'il est arrivé exactement au moment où il fallait le faire, pour lui, au moment où le western en avait besoin. J'ai bien une ou deux idées de western géniaux derrière, mais celui-là, il a tellement. Enfin, je pense que c'est limite le film qui a tué le western, quoi. Donc, quelque part, quoi.
David.
Le titre espagnol, impitoyable, c'est Sin Perdón.
C'est magnifique, c'est la meilleure conclusion.
Que tu l'avais découvert comme ça.
Dont on pouvait rêver. Il l'a vu là-bas à l'époque.
Dans les bas-fonds.
Dans les bas-fonds de Madrid. Et notre temps est écoulé, c'est n'importe quoi. Merci à tous les trois, merci à David et Quentin, à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit. A très vite.
Binge.
Buenas noches.
Tu parles espagnol ?
Un poquito.
Mais tu crois que tu m'impressionnes ? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Et tout de suite, un message de notre partenaire.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit ?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, on peut les acheter et pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio et disponible sur toutes les applications podcast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.